Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Pierre Ouverte. On retrouve cette semaine une nouvelle fois dans la série Le Lot, c'est tout un art, en compagnie de Maëlys Saint-Léger. Bonjour Maëlys.
Bonjour.
Maëlys, votre travail porte sur plusieurs sujets, mais le premier c'est la présence d'une figure emblématique de la littérature française dans Le Lot, c'est André Breton. Il découvre le département en participant au mouvement des citoyennes du monde. Qu'est-ce que ce mouvement ?
Alors, le mouvement des citoyens du monde, c'est un mouvement qui émane de l'association du Front humain des citoyens du monde. Donc, c'est un mouvement de réflexion qui réunit plusieurs personnalités pour penser à un nouvel ordre mondial au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, du coup, c'est un mouvement auquel adhèrent plusieurs communes du Lot et auquel adhère également André Breton.
André Breton, il se prend d'affection pour Saint-Cyr-la-Popie où il s'installe en 1950. Pourquoi ce village ?
Alors, on pense qu'il y a plusieurs raisons qui puissent expliquer pourquoi il se prend d'affection pour le village de Saint-Cyr-la-Popie. On a tout d'abord la situation du village, c'est-à-dire Saint-Cyr-la-Popie est situé sur une falaise. Et en plus, il a des toits qui sont disposés d'une manière un petit peu surréaliste, qui peut rappeler un peu le monde de André Breton. Ensuite, on peut supposer aussi que Saint-Cyr-la-Popie était un lieu de ressources pour l'écrivain. C'était un moyen de se reconnecter avec le monde qui l'entoure et également d'échapper à, par exemple, la chaleur de l'été sur Paris ou à l'absence de ses amis en venant dans le Lot.
C'est donc à Ormondy qui attire André Breton, mais aussi de nombreux artistes. Est-ce que vous avez des exemples ?
Alors, on a par exemple des écrivains comme André Breton, du coup, Albert Camus ou encore Jean Poulain. Mais on a aussi le peintre Max Ernst qui se prendra aussi d'affection pour les paysages du département. Et on a d'autres personnalités comme l'abbé Pierre ou Albert Einstein qui partagent les idées du mouvement.
Quelles sont les actions de l'association ?
Alors, les actions de l'association, c'est avant tout des interventions au cours des discussions de l'ONU. Ensuite, l'organisation de meetings. Il y a aussi la création d'un hebdomadaire, La Patrie Mondiale, qui était créée par Pierre Berger et qui était nourri d'articles de Gary Davis, Albert Camus et André Breton.
Le plus gros de votre travail qu'on va notamment retrouver dans l'exposition, c'est il a porté sur l'exposition nationale 20, qui a participé à la diffusion de l'art contemporain dans le Lot. Quand est-ce qu'elle a eu lieu et qu'est-ce qu'elle présente principalement ?
Alors, c'est en fait une double exposition, c'est-à-dire qu'elle a eu lieu entre le 30 juin et le 31 août 1978. Et elle a eu lieu le long de la nationale 20, qui relie Paris à Toulouse, et en même temps, dans le musée de Cahors, Henri Martin. Donc, par rapport à la route, cela consistait surtout à faire des installations artistiques.
C'est quoi cette pratique de l'installation ?
Alors, ces installations, en fait, c'est des œuvres d'art que constituent les artistes et qui mettent dans le paysage, un petit peu comme dans un musée.
Comment on arrive à cette double exposition, puisque vous avez dit il y a une partie dans le musée Henri Martin et une partie le long de la Nationale 20.
Voilà. J'ai pas très bien entendu la question.
Comment est-ce qu'on arrive à cette double exposition donc qui a lieu à la fois dans le musée Henri Martin et au long de la Nationale 20?
Ah, alors en fait, tout est parti d'une discussion entre les artistes Loutrevet et Jean Edoulès. Pour en fait faire une exposition à la fois le long de la route et au musée, c'était l'occasion de mettre en valeur les deux espaces. Et donc du coup, c'est la fille de Loutrevet, Caroline Bissière, qui est commissaire d'exposition, qui s'occupe de joindre plusieurs artistes et d'organiser la régie.
Et du coup, c'est quoi le message de l'exposition ?
Alors, c'était surtout dire que le paysage naturel est le lieu dans lequel tous les aménagements humains trouvent leur fondement, c'est-à-dire les villes et les voies de communication.
Est-ce que l'exposition a attiré du monde ?
Oui, elle a attiré le regard de plus de 600 personnes qui se sont arrêtées le bord de la route.
Quel artiste présente des installations ?
Alors, le collectif d'artistes rassemble au moins 16 personnes. Donc, c'est surtout des personnes qui habitent le département ou qui y sont nées. Donc, on va retrouver, par exemple, Loutrevet, Jean-Pierre Rodrigo, avec qui j'ai pu m'entretenir, Jean-Yves Oulest, Michel Zakariou ou encore André Mouillet, pour nous donner quelques exemples.
L'œuvre que vous avez présentée, c'est l'irréversible fatalité du groupe Intel. De qui se compose ce groupe ?
Alors, à l'époque, il se composait de Jean Bolladiné, de Philippe Casal et de Wilfried Ruff.
Et à quoi il ressemble cette installation ?
Alors, pour ce qui est de l'installation artistique du groupe Intel, c'était en fait une phrase composée de deux mots, l'irréversible fatalité. Donc, c'est une phrase, en fait, qui met en évidence un petit peu la banalité et l'insignifiance de notre quotidien. Et chacun des mots a une forme bien différente. C'est-à-dire que l'irréversible, le mot irréversible, est en fait constitué de grands blocs de pierre taillés et positionnés sur une colline, tandis que le mot fatalité est, lui, inscrit en face de ce premier terme et tracé sur la terre à l'aide d'une débroussaillette.
Ce qui est intéressant avec ce collectif qui a proposé l'exposition Nationale 20, c'est que quand ils apprennent la construction de l'autoroute dans les années 2000, ils se reforment.
Oui, oui, car en fait, quand il y a la construction de l'autoroute A20, il y a des fouilles archéologiques qui sont entreprises. Et donc, du coup, cela permet d'examiner des objets qui vont être ensuite placés au musée Henri Martin. Donc, pour le conservateur de l'époque et Jean-Edouard Voulez, en fait, faire une exposition autour de la route et du musée, bah, c'était en quelque sorte faire un clin d'œil à l'exposition de 1978.
Et enfin, du coup, la dernière partie sur laquelle vous avez travaillé, c'est le focus sur les jardins de Sally Stride. Il découle de la prise de conscience, ou plutôt de la redécouverte de la possibilité d'avoir des jardins en ville. Enfin, l'art du jardin, il n'est pas vraiment nouveau, parce que depuis plus de 3000 ans, il y a une véritable pratique du jardin qui est même un art. Et comment Sally Stride, lui vient l'envie de peindre ses jardins ?
Alors, en fait, cela vient surtout de l'ouverture d'une galerie artistique au domicile de Sally Davis Stride et de Jeffrey Stride. Et comme ils ouvraient pendant l'été, cela nécessitait surtout sa présence pour surveiller un petit peu l'exposition. Donc, pendant que la galerie était ouverte et que le monde venait la visiter, elle pouvait s'exercer à la peinture.
Elle adopte la même technique que Claude Monet quand il représente le jardin de Giverny des Nymphéas. En quoi est-ce que cette technique consiste ?
Alors, pour ce qui est de la technique de Claude Monet, c'est surtout l'utilisation de la peinture à l'huile et du pastel, surtout dans le cadre de Sally Davis Stride, pour représenter la lumière qu'elle percevait. Et on peut aussi noter dans ses œuvres qu'il y a surtout une absence de perspective dans l'espace, car tous les éléments sont présentés dans un seul et unique plan, en fait.
Comment est-ce que Sally Stride voit le jardin ?
Alors, elle le considère en fait comme étant un espace où les frontières avec le paysage sont floues et où la nature évolue en même temps que celle du paysage. Mais c'est aussi, pour elle, un espace où la présence de l'homme ne doit pas surpasser celle de la nature, en fait.
D'accord, et cette idée, elle le retranscrit dans son œuvre ?
Oui, elle le transcrit avec surtout deux techniques. C'est-à-dire qu'elle va montrer une organisation anarchique des plantes dans l'espace en utilisant du vert ou du bleu pour superposer un petit peu les végétaux. Et elle va surtout mettre en relief de l'eau, que cela soit avec une mare pour montrer une absence de barrière humaine. Et pour ce qui est de la présence de l'homme, on va surtout le voir par exemple avec un petit élément comme une fontaine.
Merci Maëlys d'être venue répondre aux questions de la série Le Lot, c'est tout un art. Et à très vite.
Mais avec plaisir.